Madame Antonis, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir à l'occasion de notre premier café citoyen. Vous êtes animatrice politique au Centre Forsoc à Charleroi et spécialisée notamment dans les domaines de l'immigration, la précarité et la discrimination. Le débat d'aujourd'hui porte sur les demandeurs d'asile et les sans-papiers. Je vous cède la parole.
Merci Isabelle. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle effectivement Joëlle Antonis et je travaille à Centre Forsoc, qui est un centre d'éducation permanente où on fait des formations, des animations. Et alors j'ai la spécificité de tenir une permanence en droit des étrangers au sein de la FGTB de Charleroi. Donc si un jour vous avez un ami ou vous-même vous êtes confronté à un problème lié au séjour, ben, je vous invite à venir me rencontrer. Je pourrai répondre à vos demandes. Donc aujourd'hui on se voit suite au visionnage du film Illégal. C'est un film, je pense, qui marque, qui touche. Donc, en général, il y a beaucoup d'émotions après ce film. C'est assez dur. Et donc, j'ai envie très vite de vous céder la parole et de voir quelles ont été vos impressions, quelles ont été vos réactions par rapport à ce film. Est-ce qu'il y a eu des réactions, tout d'abord? Oui.
Moi, j'ai été beaucoup touchée par la façon dont on traite les gens, parce que quand tu es illégal, c'est dur. Et on te dit, tu n'as pas le droit de rester dans ce pays, tu dois retourner. Et chez toi, c'est parce que ça ne va pas que tu es là. Et moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'on les frappe comme ça. Et vraiment, c'est touchant, quoi. Ouais. Je ne sais pas si vraiment c'est réel, ça continue ou s'arrêter. C'est ça que je veux savoir.
Je vais répondre à cette première question. Donc ce film qui a été réalisé, enfin qui est sorti au cinéma en octobre 2010, est une fiction, d'accord, mais basée sur des faits réels, ça c'est important. Olivier Masset-Depasse, qui est un réalisateur belge, donc il s'agit d'un film belge, Anne Cossens, qui est l'actrice, est également belge, ont eu l'occasion de passer énormément de temps dans le centre 127 bis. Et donc ce que vous voyez, c'est une reconstitution du centre 127 bis. Il ne s'est pas tourné dans le véritable centre, on en a reconstitué un. Donc c'est extrêmement réaliste. Olivier Masset a passé une année avec un journaliste du soir et avec un responsable de la Ligue des droits de l'homme pour bien comprendre cette problématique des centres fermés. Le film s'appelle Illégal. Il n'y a pas de E à la fin. Ce n'est pas Tania qui est illégale. C'est la situation qui est illégale. Donc ça, c'est une première chose. Alors effectivement, il y a une chose qui a changé depuis ce film, qui a été réalisé en 2009-2010, c'est que depuis décembre 2009, les enfants, les mineurs ne peuvent plus être dans les centres fermés. Ça a été un très long combat des associations, du monde syndical, pour empêcher les enfants d'être dans ces centres fermés, puisque vous avez vu quand même toute la souffrance, toute la détresse des familles et des enfants également, hein, pipi au lit et tous les problèmes psychologiques qui vont. Donc, à l'heure actuelle, plus d'enfants dans les centres fermés. Mais si vous avez écouté un petit peu l'actualité, on en reparle. Parce que malheureusement, ça n'a pas été inscrit dans la loi. Donc ça voudrait dire qu'en 2015, on pourrait très bien revoir des enfants dans des centres fermés. Alors, une autre situation qui a changé également, on a vu beaucoup de violence par rapport, au rapatriement forcé, suite au décès de Semira Adamou. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 1998, cette jeune Sénégalaise avait énormément marqué. Avait refusé le retour forcé et elle avait été étouffée dans l'avion. Alors des modalités ont été mises en application et désormais certaines techniques, je vais dire, pour forcer les illégaux à partir sont mises en application. Donc le coussin, on ne peut plus l'utiliser. Mais les fameuses clés de bras, clés de jambes, l'ensaucissonnage et autres sont toujours des techniques qu'on peut bel et bien utiliser pour rapatrier de force une personne considérée comme illégale. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à ce film? D'autres personnes qui voudraient témoigner? Est-ce que ça a suscité des questions? Est-ce qu'il y a des passages dans le film que vous n'avez pas nécessairement compris? Je prends un exemple. Tania, au début du film, a un document. Un ordre de quitter le territoire, elle en fait une boule, elle le jette. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ordre de quitter le territoire? On voit ensuite cette maman se brûler les doigts. Pourquoi fait-elle ça? Donc en fait, le document qu'elle reçoit, c'est l'ordre de quitter le territoire, c'est-à-dire que sa procédure, sa demande d'asile est déboutée, donc c'est le terme utilisé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue par le CGRA, le Conseil Général aux Réfugiés et aux Apatrides, comme étant une réfugiée. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas reconnue comme réfugiée, pour cela un ordre de quitter le territoire et vous devez bien sûr quitter ce territoire, soit volontairement, soit par la force, ou alors vous tombez dans la clandestinité. Ça, c'est encore un autre débat, on pourra en parler tout à l'heure, il n'y a aucun souci avec ça. Et donc Tania reçoit ce document, elle le jette et décide effectivement de se brûler les empreintes. Il faut savoir en fait que depuis 2003, il existe un règlement qui s'appelle le règlement Dublin. On en parle dans le film, à un moment donné, l'avocat parle du règlement Dublin. Et donc il faut savoir que depuis 2003, il y a tout un système qui s'appelle Eurodac. Donc, c'est un système informatique qui existe. Et toute personne qui introduit une demande d'asile, toute personne illégale qui est prise à un moment donné sur le territoire, va être contrainte de donner ses empreintes digitales, les 10 doigts. Et donc à partir du moment où elle figure dans ce fichier européen, d'accord, qu'elle introduit une demande d'asile en Belgique, le règlement Dublin dit « Oh, vous avez déjà introduit une première fois une demande d'asile en Belgique, on vous l'a refusée, il n'y a aucune raison qu'un autre pays de l'Union européenne revérifie une autre demande d'asile ». C'est pour ça que Tania, elle se brûle les empreintes. À partir du moment où on ne sait pas qui elle est, à partir du moment où elle ne révèle pas son identité, sa nationalité, impossibilité tout simplement de la rapatrier chez elle de force. C'est des situations qu'on voit de plus en plus. Je vous assure, c'est pas de la fiction. Ces gens qui se mutilent pour justement ne pas être connus, qui cachent leur identité, qui ont de nombreux sobriquets ou de nombreux ce qu'on appelle alias. L'Office des étrangers parle d'alias. C'est quelque chose de récurrent. Vous avez des gens qui ont une dizaine de noms différents, avec des fois des papiers en conséquence aussi. Tout simplement parce qu'ils essaient, par divers moyens, d'obtenir un titre de séjour et simplement de pouvoir rester ici parfois en Europe, parce que chez eux, comme vous l'avez dit, quand on quitte son pays, il ne faut pas non plus être un expert pour comprendre que quand on quitte son pays, quand on se déracine, quand on quitte sa famille, ses amis, son travail, sa maison, est-ce que vous pouvez vous mettre à cette place-là, quitter tout ça, ce confort que vous avez pour partir vers l'inconnu. Un pays où vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaissez pas la culture, vous ne savez pas de quelle façon vous allez être accueilli. Moi, je trouve que déjà là, c'est une circonstance énorme. Si on quitte son pays, si on se déracine, c'est qu'il y a une raison là derrière. Malheureusement, l'Office des étrangers ne voit pas les choses comme ça. Et le CGRA, qui donc gère la question de l'asile, ne voit pas les choses comme ça. Lui, il est basé sur la Convention de Genève. Est-ce que vous avez entendu parler de cette Convention de Genève ? Donc cette convention, elle est de 1951 en fait, et elle détermine les conditions d'asile. C'est-à-dire qu'une personne, donc la convention dit clairement, toute personne qui craint pour sa vie d'être persécutée du fait de sa race, terme utilisé, nationalité, de son ethnie, de son appartenance sociale, religieuse, politique, donc qui craint d'être persécutée et qui ne peut obtenir la protection de son pays, a le droit d'aller demander la protection d'un autre pays. C'est ça l'asile. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Une personne qui arrive ici en Belgique, qui demande l'asile, elle est reçue par diverses instances, donc c'est long, il faut tout le temps répéter les mêmes choses, réexpliquer son parcours migratoire, pourquoi on a quitté son pays, et surtout apporter la preuve de la persécution. Donc imaginez des situations, j'en connais parce que je vais à fait d'asile, je rencontre des gens quotidiennement qui ont vécu ces situations-là, qui rentrent chez eux, dont la famille a été complètement massacrée, et donc ils fuient. Quand vous fuyez, je suis désolée, ne prenez pas votre valise, votre nounours, vos vêtements, tous vos documents. Vous partez avec rien. Et donc les gens arrivent ici en Belgique. Et l'office dit, ah, mais vous allez me justifier. Quelles sont les raisons? Quelles sont les preuves que vous êtes bel et bien persécuté? Donc on est face à des gens qui n'ont aucun moyen matériel de pouvoir apporter la preuve d'une persécution. Et donc ces gens sont simplement déboutés. Les médias jouent un rôle important par rapport à l'image de l'immigration. Dans les médias, on entend parler que de ces gens qui veulent profiter du système et de la sécurité sociale, comme vous l'avez soulevé, alors qu'en réalité, ces gens qui demandent l'asile ne sont pas là pour profiter d'un système. Est-ce qu'on profite d'un système en gagnant 1 000 euros par mois? Je suis désolée, comment on arrive à vivre comme ça, dignement, correctement? C'est difficile, c'est même voire même impossible. Alors aller croire qu'on vient spécialement pour profiter d'un système social, c'est un peu facile, je veux dire, personne ne vient pour ça. Les gens quittent leur famille, leur vie, pour des guerres, pour parfois des raisons effectivement économiques. Donc ils espèrent un monde meilleur, de trouver du travail, d'avoir de l'argent à envoyer à leur famille. Et alors, il y a toute la question à l'heure actuelle, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, qui ne sont pas reconnus, où on commence tout doucement à en reconnaître quand même quelques-uns à qui on accorde en réalité une protection subsidiaire. Alors c'est quoi cette chose de protection subsidiaire? Il faut savoir que quand on ne peut octroyer un statut de réfugié à une personne, le CGRA est dans l'obligation de vérifier si cette personne ne pourrait pas avoir une protection. C'est-à-dire qu'elle dit, ben voilà, effectivement, on reconnaît qu'à l'heure actuelle, certains pays sont en conflit. et que renvoyer cette personne pourrait être dangereux pour elle. Et donc on lui donne un titre de séjour temporaire, renouvelable d'année en année, jusqu'au moment où on obtient un titre de séjour définitif. Mais il ne faut pas se leurrer, vous l'entendez dans la presse, on rapatrie des Afghans en disant qu'il ne se passe rien en Afghanistan, enfin il ne se passe rien dans juste une petite région de l'Afghanistan où il y a un petit conflit, mais on peut rapatrier les gens à Kaboul, c'est pas grave, à Kaboul il n'y a rien, mais les gens, en réalité, ils doivent traverser Kaboul et passer par cette région où il y a ces conflits. Et donc on a énormément d'Afghans qui sont rapatriés de force et qui sont en fait tués sur place, tout simplement. Donc la Belgique est condamnée, mais ça ne change rien. Et ils mettent en place d'année en année des mesures en vue justement de limiter l'immigration en mettant une liste de pays sûrs. C'est aberrant, une liste de pays sûrs. Donc ils ont déterminé que 7 pays n'étaient pas du tout des pays persécutants, ils respectent les droits de l'homme, il y a moyen d'avoir une protection. Et donc quelqu'un qui vient du Kosovo verra sa demande d'asile par refuser. Mais la procédure sera accélérée. Donc en 15 jours, on lui donnera une décision. Alors qu'une demande d'asile classique peut prendre parfois des mois, voire des années avant d'obtenir une décision. D'autres réactions?
De la gardienne là qui a abandonné son poste là. Ça me touchait plus que le reste parce que c'est une solidarité. Alors j'étais dans cette centre fermé et j'ai resté pas longtemps, deux trois semaines. Bah, le pire est parce que là-bas, psychologiquement, c'est mieux d'être dans une prison que là-bas. Parce que quand tu es dans la prison, tu connais ton peine et tu vas sortir. Bah, là-bas, eux ont le droit de te tenir combien ils veulent, par exemple, pour voir le preuve de votre identité et tout ça. Et la plupart des gens, comme moi, par exemple, d'un pays, on change le nom pour avoir quelques temps de rester, quoi, pour avoir profité de quelques mois. Après, si on est obligatoire de partir, alors on change le nom encore de notre pays. Les gens qui viennent et demandent asile, il faut bien écouter, il faut donner une chance, en fait, provisoirement peut-être. Bah, le Théo Franck, le nouveau secrétaire d'État, il doit poursuivre ma guide de blog.
Merci de l'intervention. J'ai relevé énormément en fait, de questions. Vous soulevez beaucoup de questions. Dans un premier temps, vous me dites avoir été touché par la réaction de cette jeune femme, cette gardienne qui, à la fin, effectivement, n'en peut plus. Il faut savoir qu'effectivement, tout le personnel présent dans les centres fermés ou dix centres de détention sont sous contrat avec l'office. Ça va de l'infirmière, le médecin également traitant, à l'assistante sociale. Donc c'est intéressant, c'est de voir le profil qu'on demande aux assistants sociaux. Les assistants sociaux sont là pour aider les personnes et les écouter. Et ce qu'on demande à l'assistante sociale d'un centre fermé, bien sûr, c'est d'écouter, bien sûr, c'est d'entendre. Mais l'objectif premier, c'est d'amener les personnes au retour volontaire. On voit que ça crée un énorme souci déontologique, donc c'est-à-dire la limite qu'on peut se mettre au niveau de son travail, jusqu'où doit-on aller, jusqu'où peut-on aller sans sortir du cadre de son travail. Et donc, les infirmières filtrent une série de gens. Vous avez mal, oui, mal à tête, on vous donne une aspirine, alors que ce n'est pas ça, c'est des problèmes psychologiques, souvent. Les médecins qui ont la possibilité de mettre fin au retour forcé, parce qu'ils pourraient attester que la personne est dans une situation psychologique importante ou médicale importante, en réalité, ils ne le font pas, parce qu'ils sont payés par l'Office des étrangers. Ils ont tous des directives de retour volontaire. Et donc, pour ces gardiens, c'est des travailleurs qui, à un moment donné, sont coincés dans un boulot qu'ils n'aiment pas nécessairement. Il y en a certains qui aiment bien, parce que c'est de leur avis qu'il faut rapatrier un maximum de gens. Mais il y a des gens qui ont un peu cette fibre sociale et qui disent « c'est inhumain, c'est... qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes en centre fermé ?» Rien, rien du tout. La seule chose, c'est de demander la protection de la Belgique ou d'être ici pour une raison économique ou autre. Simplement de ne pas avoir l'autorisation d'être présent sur le territoire. Et comme monsieur dit si bien... il vaut mieux être en prison, et ça c'est le sentiment que disent les gens qui sont passés dans les centres fermés, il vaut mieux être en prison. Quand on est en prison, on est jugé, on sait pourquoi, on sait combien de temps on y reste. C'est aussi simple que ça. Quand on est dans un centre fermé, la loi prévoit que normalement le délai est de maximum 5 mois. Mais il faut savoir que les centres fermés sont gérés par l'Office des étrangers, qui a trouvé un subterfuge pour garder les gens plus longtemps. Et donc à chaque expulsion mais qui n'aboutit pas, puisque vous avez une procédure qui n'aboutit pas, l'Office des étrangers considère que c'est une première détention. vous devez savoir que dans le cadre du rapatriement forcé, vous avez, comme on l'explique bien dans le film, la première fois, vous êtes simplement accompagné avec le psychologue qui filme. On vous demande est-ce que vous voulez retourner, oui ou non. Vous dites non, on insiste, vous dites non, vous ne retournez pas. La deuxième fois, il y a une escorte, un petit peu plus de violence. La troisième fois, beaucoup, beaucoup de violence, les clés, le lance-saucissonnage, et là, vous n'avez pas beaucoup de possibilités de dire non. À ce moment-là, vous ne savez plus parler, et vous êtes ficelé comme un saucisson. Donc, il peut y avoir la réaction des gens dans l'avion. C'est déjà arrivé. Alors, je trouve que c'est une belle réaction. Si un jour, vous êtes dans l'avion, qu'il se passe quelque chose comme ça, faites-le. Et donc, il y a une quatrième procédure qui consiste à réaliser un vol sécurisé pour la personne. Et donc là, il n'y a pas de passager, il n'y a que cette personne, deux policiers, ils l'ont meloté, elle n'a plus le choix. Donc ça, c'est la procédure. Et donc effectivement, ces gens qui sont dans les centres fermés restent maximum 5 mois, c'est ce que dit la loi, mais peuvent parfois rester 6, 7, 8, 10, 1 an. Tout dépend vraiment de la volonté de l'Office des étrangers, qui n'est qu'une administration, j'insiste, hein. Ce n'est pas un pouvoir judiciaire, c'est une administration qui prend les décisions concernant ces gens, mais là qui prend des décisions de détention. Donc des gens qui se retrouvent dans des centres, logés à plusieurs dans des chambres, ils ne se connaissent pas, ils ne parlent pas la même langue, avec des soins médicaux extrêmement limités, ça se résume à une aspirine et un antidépresseur. Et si à un moment donné vous faites un petit peu trop de grabuge, ça va du, effectivement dans le film on voit cette partie de plaisir qu'ils ont à se lancer, la nourriture, comme dans les camps de vacances, à malheureusement des gestes qui vont beaucoup plus loin, les tentatives de suicide sont fréquentes, mais il faut savoir que ces gens qui ont fait une tentative de suicide, bien sûr on va les soigner sommairement, hein, et ensuite on va les mettre en cellule d'isolement, au cachot. Hop, on rajoute une petite couche. Donc moi je comprends parfaitement quand monsieur dit je préfère aller en prison, au moins les choses sont claires, là vous n'avez rien fait, vous vous retrouvez dans un milieu carcéral. Les centres fermés sont pensés en termes carcéral. La preuve, c'est que sur les 6 centres qui existent en Belgique, 2 sont d'anciennes prisons. Le nouveau qui a été réalisé ici, le Caricol, à Bruxelles National, est pleinement pensé sur le modèle carcéral. Donc en Belgique, vous avez 6 centres fermés, avec une capacité différente qui va de 60 personnes à presque 200 personnes. Vous avez également les centres INAD, donc, c'est-à-dire les centres inadmissibles. Ce n'est pas les gens qui sont inadmissibles, enfin, ce n'est pas la situation là qui est inadmissible, ils appellent ça inadmissible, c'est pour les gens qui n'ont pas tout simplement leurs documents quand ils arrivent sur le territoire belge. Donc on les met dans les centres inadmissibles. Là, vous allez me dire, et les enfants dans tout ça maintenant, qu'est-ce qu'on en fait puisqu'on ne peut plus les mettre dans les centres fermés? Eh bien, on a créé d'autres centres, des centres de retour. Ce sont des centres ouverts où les familles sont accueillies et où on fait un énorme, ils ont un coach, on est dans la gestion, un coach pour les amener à retourner volontairement. Alors, il faut savoir que maintenant, parmi ces familles, 25% s'envolent dans la nature, clandestinité ou vont vers d'autres pays européens. Maggie de Bloch, en l'occurrence, s'inquiétait quand même. 25%, c'est énorme, la clandestinité. Elle avait vraiment envie d'enfoncer le clou là-dessus. Et donc, il est prévu la création de 17 unités de centres de maisons fermées pour les familles à haut risque. Donc on revient un peu à ce même genre de situation au fond. C'est vrai que vous ne vivez pas en groupe, vous êtes avec votre famille, mais quand vous êtes contraint d'être enfermé, ça reste être enfermé. Alors par rapport à vous me disiez, je n'ai rien contre Théo Franken, il vient d'arriver, donc moi j'ai pas envie qu'on lui laisse sa chance à ce monsieur. Par rapport aux déclarations qu'il a pu faire, je peux pas. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est quelqu'un de droite, et pour moi, par mon analyse, c'est quelqu'un d'une extrême droite. Les propos qu'il a tenus dans la presse, petit con, oui, mais en même temps, sa participation à des assemblées qui inaugurent et qui louent les qualités d'un collabo, bah, à un moment donné, vous voyez très bien où ce monsieur va venir. Maintenant, il est clair qu'on est dans un tracé qui était déjà établi depuis longtemps. Maggie de Bloch, si vous êtes intéressé un peu à sa question, quand vous allez voir un peu sur les sites internet, les gens l'encensent. Ouais, elle est géniale, elle diminue l'immigration, c'est génial, enfin, tous ces étrangers dehors, etc., etc. En réalité, c'était déjà une politique mise en place sous le gouvernement Di Rupo. Elle n'a fait qu'appliquer extrêmement à la lettre ce qui était mis dans la note gouvernementale de Di Rupo. Hein. Donc, voilà, je suis aussi très, très critique par rapport à tous nos gouvernements. Voilà, moi je dis par rapport à Théo Franken, je n'ai pas envie de lui laisser sa chance. Parce que quand on voit cette note, elle est désastreuse. On va vers un renforcement d'absolument tout. les demandes d'asile accélérées. Mais quand on dit accélérer, je veux bien, moi je trouve que c'est normal. On devrait effectivement faire en sorte qu'une personne qui a introduit sa demande d'asile reçoive sa réponse dans les 6 mois. C'est inhumain de laisser des personnes pendant des années attendre. C'est inhumain. Mais en même temps, il faut mettre les moyens financiers derrière. Si on vous dit juste on va le traiter en 6 mois et qu'on n'ait pas de personnel pour traiter le dossier correctement, ça veut juste dire que l'agent traitant, il va se retrouver avec une pile de dossiers comme ça, il a 6 mois, à un moment donné, ça sera le tampon rouge qui sortira le plus facilement. Il va toucher à l'asile, il va toucher à la régularisation, il va toucher au regroupement familial, il va toucher aux 9 terres. Enfin, craignez pas, il va toucher absolument tout et créer une nouvelle politique migratoire. Alors,
ce que moi j'ai envie de demander... Il n'y a pas des Belges aussi qui sont des immigrés dans d'autres pays. Refuser l'immigration, ça c'est l'égoïsme, puisque c'est eux-mêmes qui ont cherché pour que l'immigration va avoir lieu en Belgique.
Tout à fait, effectivement. Donc, il y a toujours eu des flux migratoires. Tous les pays ont toujours reçu des migrants pour diverses raisons. Et à une certaine époque, ça ne posait pas de problème. En Belgique, ça n'a jamais posé problème. On avait besoin de migrants pour travailler dans les mines. On a fait appel aux Italiens, mais on avait fait appel bien avant aussi aux Polonais, aux Espagnols. On a fait appel ensuite aux Marocains. On a fait appel aux Turcs. Et après, la Belgique, elle n'a pas réfléchi. Elle s'est dit, oula ! Parce qu'à la base, ils voulaient des gens pour travailler. Quand le travail était fini, ils devaient retourner. C'est ce qui était prévu. Et les gens ne sont pas retournés. Que du contraire, les familles sont venues rejoindre. Et donc, ça a arrangé aussi la Belgique, parce qu'au niveau natalité, il fallait démographiquement qu'on remonte un petit peu le seuil. Donc, ils ont accepté tout ça. Ils ont accepté une certaine forme de clandestinité migratoire. Les gens venaient, on les régularisait par le travail, alors que normalement, ils étaient censés passer par des filières bien spécifiques. Mais là, les gens venaient. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que les premières crises, simplement, il n'y avait plus tant que ça d'emplois, il fallait limiter. Donc, on arrive en 74-76 et on dit stop. Stop à l'immigration, on crée la loi de 1980, qui est cette loi qui justement règle toute la question migratoire, donc non seulement l'asile, mais toutes les procédures de régularisation et de regroupement familial. Il faut savoir qu'en Belgique, à l'heure actuelle, c'est le regroupement familial qui ramène le plus de personnes étrangères. Et ce n'est que normal que si le monsieur ou la madame, ou qu'importe, est présente ici à un séjour, il n'est que normal qu'elle soit rejointe par son époux ou ses enfants. Enfin, on a tous le droit à une vie familiale, ça c'est le minimum. L'immigration première, c'est le regroupement familial. L'asile. Alors on dit toujours qu'on est, assailli comme ça, on a un afflux massif de demandeurs d'asile. Il faut arrêter, hein. J'ai été voir ce matin, je voulais avoir des chiffres frais, donc je suis allée consulter le site de l'Office et du CGRA pour voir un petit peu les chiffres des demandes d'asile. Pour de janvier à octobre 2014, donc ça veut dire sur 10 mois, on a eu 9 000 nouvelles demandes. Il y a 5 000 demandes multiples, c'est-à-dire quelqu'un qui réintroduit une deuxième demande, tout simplement parce que la première a peut-être été refusée parce qu'il n'a pas de documents à apporter, et donc la personne réintroduit à partir du moment où elle a une nouvelle preuve. Et donc on est sur 10 mois à 14 000 demandes. 14 000 demandes, ce n'est pas non plus les fameux millions d'étrangers qui vont nous envahir, on est quand même très loin du compte. Sur ces 14 000 demandes, mais combien vont obtenir le statut de réfugié? Donc là, je suis allé voir au niveau du CGRA, la moyenne, parce qu'on est toujours dans une moyenne, on est de 15% obtiennent le statut de réfugié et plus ou moins 10% obtiennent la protection subsidiaire. Ça veut dire 25%. Pas énorme, hein. Alors vous allez me dire, oui, mais les autres, ils ne vont pas retourner. Si, il y en a une grosse partie qui retourne, parce que maintenant, il y a des mesures qui sont mises en place et donc les gens qui introduisent une demande d'asile sont systématiquement mis dans des centres d'accueil. Ils sont ouverts, ces centres d'accueil, mais quand même pas non plus la joie. Donc les centres faits d'asile, vous avez des centres Croix-Rouge. Donc les gens, ils sont parqués. Moi, je vous invite peut-être une fois à aller visiter le centre faits d'asile. Chaque année, ils ouvrent leurs portes. Allez visiter un centre faits d'asile. Allez voir, c'est d'une horreur. C'est un bâtiment préfabriqué. Les gens logent à plusieurs dans les chambres, sont conditionnés, doivent manger à midi, c'est ça ou rien d'autre. Tout est dirigé, même le réveil. Voilà, ils n'ont pas vraiment d'autonomie, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas la possibilité tous de pouvoir travailler parce qu'on a mis en place des procédures qui fait que si on n'a pas 6 mois de procédure, on ne peut pas obtenir un permis de travail. Donc on contraint les demandeurs d'asile à rester inactifs dans des centres, à ne pas avoir de moyens pour pouvoir tout simplement s'intégrer et connaître un peu la Belgique. Je voulais en venir sur le nombre de personnes qui arrivent effectivement. Donc voilà, on était à 14 000 personnes, 25% auront un statut. Donc 15 auront un statut et 10 auront une protection subsidiaire. Pas énorme, hein. Quand je vous dis la protection subsidiaire, c'est un séjour d'un an Et après, on revérifie la situation politique du pays. Vous avez une série de gens qui obtiennent un statut, vous avez une série de gens qui sont dans les centres faits d'asile, qui reçoivent un ordre de quitter le territoire et qui ne veulent. Il y en a certains qui décident effectivement de retourner parce qu'ils estiment que vivre dans une clandestinité, ce n'est pas une solution, c'est difficile. Vous avez des gens qui ont envie de rester, coûte que coûte, parce qu'ils savent que s'ils y retournent, même si le CGRA n'a pas reconnu le statut, ils savent que s'ils y retournent, c'est leur peau. On va les tuer. Ou il n'y a plus rien pour eux là-bas. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien du tout. Donc ces gens, il n'y a pas d'autre solution que de rester ici et de rester dans une clandestinité. Mais vous avez une part importante qui est systématiquement happée par fait d'asile, qui met en place des programmes de retour volontaire. Alors je rigole, moi, par rapport à un programme de retour volontaire. C'est de la pression psychologique qu'on vous met derrière. Hein. Il faut retourner, il faut retourner, il faut retourner, il faut retourner. Et donc, et vous signez des documents que vous ne comprenez même pas parce qu'ils sont en français, et vous retournez. Donc voilà, l'immigration première, c'est, je vous l'ai dit, le regroupement familial. Et l'immigration première, ce sont les Européens. Or, en Belgique, l'immigration, c'est une immigration européenne principalement. On est plus envahi par les Hollandais et les Français. Les Marocains arrivent en troisième position. Alors, les Afghans, les Syriens, les Congolais et autres, bah, ils sont bien loin derrière dans la tranche de la population qui nous envahit. Par rapport aux demandeurs d'asile, les populations types, en fait, fatalement, elles évoluent en fonction des conflits. Le top 1 de la nationalité, ce sont donc les Syriens, qui représentent 15% des demandeurs d'asile. Ensuite, les Irakiens, 11%, les Afghans, les Guinéens, les Russes. Et enfin, les tout derniers qui sont les gens venant de l'Iran, de l'Albanie, d'Érythrée et du Congo.
Qu'est-ce qu'on doit faire pour les aider ou pour justement, depuis que tout ça, que ça arrive, j'aimerais tant qu'on fasse quelque chose, en fait.
Waouh, la grande question. Qu'est-ce que vous auriez envie, vous, de faire par rapport à ça? Déjà, la première chose, c'est effectivement avoir une réaction et se rendre compte. Être donc sensibilisé. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour être sensibilisé à la question de prendre conscience qu'il y a des gens qui souffrent, vraiment. Des gens qui sont dans une extrême précarité à tout niveau. Donc, ça, c'est déjà une première chose. En prendre conscience parce que, comme vous l'avez dit, il y a énormément de gens qui n'entendent que les médias qui parlent de ces profiteurs, 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 profiteurs. Donc, c'est prendre conscience que les gens ne sont pas des profiteurs et vivent dans une situation de détresse. Ensuite, vous pouvez vous impliquer. Il y a diverses associations qui luttent contre la question des sans-papiers, mais la question des demandeurs d'asile, des réfugiés. Il y a énormément d'ONG aussi. Donc, vous pouvez être actif auprès de la Ligue des droits de l'homme, vous pouvez être actif auprès d'une ASBL telle que le CIRE à Bruxelles. C'est une association donc, qui existe depuis plus de 60 ans, qui a un peu pignon sur rue par rapport à ces questions. Ils font énormément de choses. Vous pouvez aussi vous impliquer dans le monde syndical. Je ne fais pas la propagande, mais là aussi, on fait des choses. Chaque année, il y a une manifestation devant le centre voté. Il y a énormément de manifestations. Il y a eu une manifestation il n'y a pas longtemps concernant le Maroc. Il y a eu une manifestation concernant le fait qu'on parle de remettre les enfants dans les centres fermés. Donc, il y a des choses qui se passent. Et s'impliquer en participant à des manifestations ou en étant bénévole dans une association ou simplement d'essayer de porter moins de jugement quand vous rencontrez une personne étrangère. Vous ne savez pas quel a été son parcours. Vraiment, vous vous dites, oh, un étranger, oh, une femme comme ça. Et derrière, il y a peut-être une maman qui a laissé ses enfants dans son pays, une maman qui a dû se battre pour obtenir son séjour, une maman qui a dû à un moment donné être sans papier, avec tout ce que ça implique pour une femme. Donc déjà ça, écoutez les gens, des sans-papiers sur Charleroi, il y en a énormément. Ce n'est pas écrit sur leur front. Hein. Donc c'est monsieur et madame tout le monde. Moi, je les côtoie tous les jours. Ça fait 5 ans que je travaille avec eux. Je n'ai jamais eu le moindre problème, le moindre remarque, le moindre propos déplacé. Pourtant, je suis une femme, avec tout ce que je pourrais dire, oui, les femmes, les étrangers, du tout. Et après, s'impliquer de diverses manières. Vraiment, il y a plein d'associations qui s'occupent des étrangers, même sur Charleroi. Vous avez l'accueil promotion des immigrés, vous avez le GIR, vous avez le CACEAC, vous avez l'Afrique en livre. Bon, il y a aussi pas mal de conférences qui sont données, pas mal d'expositions et autres. Mais déjà, faire le déplacement, d'aller à une exposition, d'aller à une conférence, d'aller à un moment donné, à un moment festif sur la culture marocaine, turque ou autre.
Moi, je voulais demander pas mal des gens qui ne sont pas d'accord avec la place qu'actuellement il occupe. Il va toujours rester.
Il y a eu une manifestation qui s'est faite à Bruxelles le 6 novembre. C'était pas pour la question de l'immigration, c'était pour toutes les questions. Et donc, il faut savoir que dans cette journée, cette manifestation, Qui était bien, hein. Enfin, je veux dire, maintenant, pour celui qui a mis les pieds pour la première fois, effectivement, ça fait peur. Hein. Il faut savoir que depuis 1960, on n'avait plus été aussi nombreux dans les rues. Donc ici, on est 120, 150, c'est pas trop bien, dans les rues. Donc, pour décider de retourner ou de faire changer ce gouvernement. Voilà, si en tout cas, les citoyens ne se mobilisent pas pour dire on n'est pas d'accord par rapport à ce gouvernement, par rapport à certaines choses, alors vous allez vous manger Théo Franken pendant X années. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cette manifestation... Le peloton de tête, il fallait savoir, c'était les sans-papiers. Et ça n'a pas nécessairement suscité la joie au sein des gens qui étaient présents dans la manif. Hein. Il ne faut pas croire non plus, il y a beaucoup de gens qui sont racistes parce qu'on est en situation de précarité, en situation de crise. Et quand on est en situation de crise, on ressort les préjugés à l'encontre des chômeurs et des étrangers, systématiquement. Il se passe pas mal de choses sur Bruxelles avec les sans-papiers. Qui veulent obtenir régularisation ou qui veulent quelque chose, parce qu'à l'heure actuelle, pour eux, il n'y a pas de solution. Je crois que c'est que si on ne fait rien, ça n'aboutira à rien. L'histoire le prouve, vous reprenez la grande grève de 60-61. Alors, elle n'a pas été une victoire concernant cette loi unique, hein, donc les gens sont montés dans la rue, il y a eu des morts à l'époque. Ça n'a pas été une réussite dans la mesure où la loi unique est quand même passée, hein, de façon éclatée, mais pas en un bloc tel qu'était prévu à l'époque. Mais en 1961, 3 mois plus tard, le gouvernement tombait. Donc c'est sur base... Il n'est pas tombé comme ça, il est tombé sur base des mobilisations. Donc... Peut-être qu'il y a d'autres façons, il y a de la pression qui doit se faire en interne, et ça c'est des choses qui se font, et ça on laisse la place au monde syndical par exemple de le faire, au monde associatif aussi, il ne faut pas croire. Et le monde associatif et le monde syndical, c'est vous. Hein. Les syndicats sans sa base, il n'y en a pas. L'associatif sans les personnes qui y vont, il n'y en a pas. Et donc c'est ces grands mouvements-là qui peuvent faire changer les choses. Et en résumé, c'est vous. Si vous préférez dire « ça ne sert plus à rien », eh bien, vous jouez le jeu de la droite qui dit, effectivement, faites ce que vous voulez de toute façon. Regardez comme De Wever a pu parler. Faites ce que vous voulez de toute façon, ça ne changera rien. Il veut vous persuader. Hein. N'allez pas me faire croire quand même que ça ne fait pas peur d'avoir autant de personnes dans les rues. Effectivement, cette première manifestation, elle a quand même marqué. Hein, donc, c'est clair qu'on n'a pas obtenu les revendications qu'on voulait. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres actions qui sont menées et les grèves, ça fait mal. Voilà, même par rapport au monde des sans-papiers, pour revenir, on a vécu 2 régularisations massives en 99-2000, 2009. Également, ces régularisations massives des sans-papiers, ce n'est pas fait du jour au lendemain, on n'a pas un État bienfaisant qui s'est dit, c'est vrai, il y a quand même pas mal d'immigrés dans les rues qui n'ont pas de papiers, ce serait quand même chouette de leur en donner. On n'a pas ce genre d'État, on est très loin là. C'est qu'à un moment donné, il y avait des pressions du monde associatif, du monde syndical aussi, il y avait énormément de pression de la population, parce que quand vous avez la population qui est dans les rues pour dire ça ne va pas, on n'est pas d'accord que ça et ça et ça, ça se passe, à un moment donné, les politiques, ils écoutent quand même, parce que vous êtes l'électorat. Et donc, quand on se rend compte que beaucoup de gens ne sont pas d'accord par rapport à une situation, eh bien, on met en place certaines choses. Et donc, ça a été le cas pour les sans-papiers. Ils ont mis en place une régularisation massive de sans-papiers, avec des critères, ok, il y a une série de gens qui n'ont pas pu rentrer dans ces critères, une série de gens qui n'ont pas été régularisés, mais voilà, pour ces 40 000 personnes qui ont eu un séjour, c'est quand même pas si mal que ça. Et donc, les conquêtes, on ne les a que par des pressions, par des mobilisations de l'ensemble des citoyens, je vais dire, en Belgique. C'est jamais comme ça, on n'a jamais eu un ministre qui soudainement dit « on va relever les salaires, on va vous donner des jours fériés en plus ». Rien n'a été gagné comme ça. Tout s'est arraché à la sueur, à la mobilisation, aux grèves, des mobilisations. Il y a des choses qui ont duré des mois et des mois et des mois. À l'époque, les sans-papiers, en 2006, ont été envahir la basilique Saint-Christophe ici en Charleroi. Ils sont installés, ils ont fait grève de la faim. Certains ont mis leur situation, leur vie en danger.
Jean Vallon, il peut influencer dans le fédéral pour régularisation.
Quand on parle de régularisation, on entend souvent ce terme-là, régularisation. Donc je vous ai dit qu'il y a une loi de 1980 qui explique les façons d'obtenir un séjour. La loi, c'est simple, ça n'a rien de simple, mais je veux vous la rendre la plus simple possible. Si vous désirez, vous êtes à l'étranger, vous désirez venir en Belgique, vous installer. Donc soit vous venez pour un séjour touristique, vous demandez un visa, vous venez 3 mois, merci, au revoir. Soit si vous désirez vous y installer, vous devez demander un visa en vue de faire des études, en vue de vous marier, en vue de rejoindre votre compagnon. Donc il y a le visa. Le visa, c'est une politique européenne. Donc, dans tous les pays de l'Union européenne, il faut un visa pour venir, pour les non-européens, bien sûr. Ce visa, quand vous êtes en Albanie, vous le demandez à l'Office des étrangers. Donc, l'Office des étrangers, l'administration belge qui gère la question du séjour. Et donc, la loi de 80 avait très bien compris qu'il y avait une série de gens qui étaient déjà présents sur le territoire et qui ne pouvaient pas retourner demander un visa. Et donc, ils ont ouvert une brèche dans la loi en disant, OK, pour les gens qui sont présents sur les territoires, il y a moyen d'obtenir un séjour par le biais de la régularisation, qui a à plusieurs moments été modifiée. Et donc, on en est à l'heure actuelle avec deux possibilités, que sont le dossier 9 bis et le dossier 9 terre. 9 terre, c'est un dossier médical. Donc, vous devez apporter la preuve que vous êtes gravement malade, que vous ne pouvez pas vous soigner dans votre pays d'origine, qu'il n'existe pas le traitement dans le pays d'origine, ou alors que vous n'auriez pas accès au traitement pour des raisons, par exemple, financières. Je prends un bête exemple. Le diabète chez nous, c'est une maladie anodine. Être diabétique quand on est dans un pays du tiers-monde, ce n'est pas la même chose. On peut en mourir, on peut avoir un handicap, tout simplement parce qu'on n'a pas accès à l'insuline, parce que c'est cher, parce qu'on n'a pas d'assurance santé. Et donc, l'office étranger s'en moque. Il dit, vous avez une maladie qui n'est pas très grave, au fond, et l'insuline, on en trouve partout. Et voilà. Vous avez ce 9 terres, ce dossier médical, ce sont des dossiers qui ne passent plus, hein, qui sont extrêmement difficiles. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient en phase terminale, un cancer, qui n'ont même pas reçu une décision positive, c'est-à-dire le droit de mourir dignement en Belgique. Et une autre possibilité que l'Office a octroyée, c'est le fameux 9 bis, donc la fameuse régularisation, c'est-à-dire introduire un dossier auprès du bourgmestre de sa ville sur base de circonstances exceptionnelles. Ça fait 5 ans que je pratique le droit des étrangers, j'ai toujours pas compris. C'est quoi circonstances exceptionnelles? Est-ce que le simple fait de quitter son pays, d'être déraciné, est-ce que c'est pas une circonstance exceptionnelle en soi? Et donc il faut pouvoir justifier les raisons pour lesquelles on veut rester ici, mais les raisons pour lesquelles on ne peut pas également réintroduire un dossier dans son pays d'origine. Et là, ça, c'est le problème des gens, ils n'arrivent pas à apporter des preuves. Et donc, ce fameux dossier, techniquement, vous le constituez auprès d'un avocat, il fait un joli dossier, il l'envoie à la commune, auprès du bourgmestre, Paul Magnette, si vous voulez, mais qu'il ne lit pas. Puisque la commune, ce qu'elle le fait, elle le réceptionne, elle le renvoie à l'administration communale, service des étrangers. Et l'administration communale, ce qu'elle fait, elle envoie un agent de quartier qui vient vérifier effectivement que vous êtes bien à l'adresse mentionnée dans le dossier. Si vous y êtes, ça va, le dossier part à l'office. Si vous n'y êtes pas, le dossier va à la poubelle. Et donc, il n'y a pas d'interférence du bourgmestre ou du ministre wallon ou quoi que ce soit. C'est une matière fédérale, le séjour. Et c'est là où ça pose le problème, en l'occurrence, des gens qui ont des possibilités d'emploi, qui sont sans papier ou en attente d'un séjour, qui ont des possibilités d'emploi. Mais l'emploi en Belgique est conditionné pour les étrangers à des permis de travail, permis B ou permis C. Et pour obtenir ces fameux permis, en l'occurrence le permis B, il faut un droit au séjour. Et donc la région wallonne, elle ne peut pas vous le donner parce que vous n'avez pas de droit au séjour. Il n'y a vraiment pas d'interférence entre le wallon et le fédéral. On voit énormément de gens qui travaillent parce qu'ils ont été demandeurs d'asile, ils ont un permis C, ils travaillent. Ils ont un travail même des fois à durée indéterminée. Ils perdent leur séjour. Ils ne le signalent pas à l'employeur et je leur donne tout à fait raison de ne pas le faire parce que s'ils le signalent, ils n'ont plus d'emploi. Quand on n'a plus d'emploi, comment on vit? Et donc ils continuent à travailler. C'est ce qu'on appelle du travail en blanc en fait, pas du travail en noir, parce qu'ils ont un véritable contrat de travail. Ils sont inscrits dans la Dimona. Ils payent leurs taxes, leurs contributions comme tout le monde. Ils ont un vrai travail. Et bon, un bon jour, malheureusement, on découvre le poteau rose. Et là, ces gens qui ont travaillé, qui ont cotisé, clairement pour la sécurité sociale, pour leurs droits aux allocations de chômage, pour leurs droits à des allocations familiales et autres, eh bien, se voient toujours au lendemain jetés de leur travail, ils n'ont pas de séjour, et ils ont le droit absolument à rien. Alors que, dans le sens même de la sécurité sociale, ils ont cotisé, ils y ont droit. Mais comme on est à la jonction de deux droits, et que le droit du séjour est suprême, ces personnes n'ont rien.
Il faut que continue une politique plus calme, mais pas plus dur avec les gens qui viennent ici d'Afrique ou des pays de guerre. Il faut laisser le temps. Il ne faut pas donner, ne donne pas un séjour illimité, il faut accueillir bien.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut c'est clair, une autre politique, parce que la politique actuelle migratoire est une politique d'échec. On vous fait croire qu'on régule les flux migratoires qui sont sous contrôle, alors que c'est faux, c'est totalement faux. Les gens arrivent quand même, d'une façon ou d'une autre, que ce soit en introduisant une demande d'asile et donc en venant en avion, en venant en bateau, que ce soit par l'illégalité. Donc les gens ont toujours bougé et les gens bougeront toujours, c'est comme ça. L'immigration, première, c'est au sein de un même pays ou au sein d'une même région. Il ne faut pas croire que toutes les personnes qui quittent l'Afrique viennent systématiquement en Europe. Le mythe de l'Europe, l'Eldorado, ça existe, c'est vrai. Pour venir en Europe, il faut avoir des moyens. Et donc, là, je casse un mythe de croire que tous les étrangers qui viennent ici en Belgique sont des pauvres. Donc, on entend souvent, il faut arrêter d'accepter toute la misère du monde, etc. C'est faux. Bien souvent, c'est la classe moyenne qui s'y déplace, simplement parce que ça demande d'avoir les capacités intellectuelles, de pouvoir rassembler une série d'informations, de documents, d'avoir de l'argent. Souvent, ça passe par des filières, hormis effectivement le Maroc où c'est un peu plus facile et autres, mais vous savez, certains pays, je suis désolé, vous ne venez pas à la nage. Donc, ça demande, il y a des filières qui sont mises en place pour venir en Europe. La personne ne sait même pas dans quel pays de l'Union européenne elle va arriver. Elle arrive en Europe et elle est parfois même contrainte à payer de sa personne, payer par travail de traite d'êtres humains, ou payer la prostitution, on l'a vu à un moment donné, était assez présente, pour payer son voyage clandestin. Donc, les personnes qui viennent ici en Belgique sont des personnes d'une classe sociale moyenne, pas les pauvres. Les pauvres, ils vont changer de région. Effectivement, il faudrait une autre politique, mais on est face aussi à l'Europe. À une Europe qui veut se replier sur elle-même, à une Europe qui veut se protéger, à une Europe qui lance le message que c'est sous contrôle alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a plein de choses qui ont été mises en place, telles que les centres fermés, mais également la mise en place de Frontex. En gros, Frontex, c'est une association armée, c'est une milice européenne qui est là pour rendre impossible à toute personne de venir en Europe, par tout moyen, normalement légaux. Après, on ne regarde pas trop à ce qu'ils font. Et donc, c'est-à-dire que les gens qui viennent d'un pays X ou Y, ou qui doivent passer par de longues étapes désertiques, Frontex les attrape à un moment donné dans leur parcours et n'hésite pas à les remettre dans le désert, sans eau, sans nourriture, sans rien du tout. Donc on a une série de cadavres comme ça dans les déserts. Vous avez une série de cadavres, je ne peux pas dire d'autres mots, dans les mers, où ils n'hésitent pas à abattre les gens qui sautent des radeaux pour nager parce qu'ils veulent arriver à Lampedusa ou qu'ils veulent arriver en Grèce aussi, parce que là aussi, la situation des demandeurs d'asile est dramatique. Hein. Ils ont été condamnés à de multiples reprises parce qu'ils n'ont aucune politique d'asile. En Belgique, il y a une loi d'accueil qui a été revue en 2007 qui dit clairement que toute personne qui demande l'asile doit être accueillie dans un centre, doit bénéficier d'un accueil, c'est-à-dire un logement, un gîte, un couvert, doit bénéficier d'une aide administrative, sociale et juridique, gratuitement. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour l'instant sur les réseaux sociaux. On a l'air de dire que les demandeurs d'asile auraient 1300 euros par mois. Ce n'est pas le cas du tout. La seule chose qu'ils ont droit, c'est d'être dans un centre fait d'asile et d'y être accueilli avec tout ce que ça comporte de vivre dans un tel centre. Il n'y a pas d'argent. Ou alors, ils peuvent travailler s'ils veulent à 1 euro de l'heure. Nettoyer les toilettes, nettoyer les vestiaires, nettoyer les cuisines. Ben, génial. Hein. Les personnes qui arrivent ici en Belgique, les demandeurs d'asile n'ont l'accueil. Quand vous êtes réfugié, vous avez un statut, c'est différent. Alors vous avez le droit effectivement au CPS ou à travailler. Quand vous êtes sans papier, vous êtes clandestin, vous avez le droit à rien. L'aide médicale urgente, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'un médecin atteste de l'urgence des soins à donner. Hein. Si le médecin oublie de dire, ben oui, j'ai dû l'opérer parce qu'il avait la jambe cassée ou un couteau planté dans le dos, ben, le CPS ne prendra pas en charge. Alors au niveau des mesures sécuritaires mises en place, on vous a dit, il y a Frontex. Et alors, il y a eu toute une campagne depuis 2012 de retour volontaire ici en Belgique avec le projet CEFOR qui a été mené dans les communes. Là, vous aviez un agent détaché de l'Office des étrangers qui était présent dans les communes au service des étrangers et qui était là pour informer la personne dès qu'elle recevait son ordre de quitter le territoire de la possibilité pour elle de participer au projet retour volontaire en mettant en avant le fait que le billet était payé par la Belgique et que peut-être, éventuellement, la personne pourrait recevoir une petite prime. 300 euros. Celui qui est expulsé, donc c'est l'expulsion, il n'a rien du tout. Ou alors, au moment où on veut l'expulser, alors il dit non, ça va, je vais retourner volontairement. Il peut le dire. Parce que alors, ça se fait quand même avec beaucoup plus de douceur. En plus, on ne rapatrie pas les gens comme ça. Il faut les autorisations des 10 pays dans lesquels ils doivent retourner. Hein. Quand c'est un retour volontaire, ça pose pas, il n'y a pas ces questions-là. Depuis 2012, donc, vous recevez un ordre de quitter le territoire, on vous informe de la possibilité d'introduire un recours et de la possibilité de faire partie du programme de retour volontaire. La personne chargée, en réalité, de faire ce programme de retour volontaire était aussi chargée de réaliser une liste de personnes à renvoyer. Ces listes, c'est une question de nationalité et de quotas. Donc à un moment donné, il faut trouver autant de Marocains que de Syriens, que Macédoniens, etc. Et donc on fait une liste par rapport à ça. Les jeunes hommes isolés sont les gens qui ont rapatrient plus facilement que les familles. C'est plus difficile, les familles. Parce que les familles, souvent, il y a la presse derrière, il y a les médias, ça va être beaucoup plus difficile. On n'est pas dans une perspective où ouvrons les frontières, laissons venir tout le monde. Ce serait génial, mais on n'en y est pas du tout. Mais donnons la chance aux personnes, donnons-leur un titre de séjour d'une année, et on lui dit, mon gars, tu as une année pour prouver ce que tu veux, mais vous donnez déjà d'une sacrée chance aux gens de pouvoir effectivement prouver que là, vous ne leur donnez rien, pas d'espoir. Il n'y avait plus d'autres questions.
Les gens qui font des années attendent qu'ils soient régularisés, ils ont le droit de rester sur le territoire. Est-ce qu'un jour, ils seront régularisés?
Vous posez vraiment la question à 10 000 euros, est-ce qu'un jour ils seront régularisés? Un jour. Mais me demander de vous dire une date, des années, ben, à l'heure actuelle avec le gouvernement qu'on a et le peu de réaction des citoyens par rapport à la question migratoire, dans 50 ans. Si maintenant les gens réagissent, si on fait tomber ce gouvernement, si on a d'autres personnes, ils pourront peut-être entendre les questions migratoires. À l'heure actuelle, ce n'est pas du tout d'actualité. Dans la note gouvernementale, il est même question d'interdire les régularisations collectives. Ça veut dire que ce qu'on a eu en 99-2000 et en 2009 ne sera plus possible. Auparavant, il y avait des gens qui attendaient des années, 8-10 ans, pour obtenir une demande de séjour, une demande d'asile en l'occurrence. À l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. Parce que pour rappel, en 2009, face à cette régularisation qu'il y a eu, même si elle a été annulée, en l'occurrence par la NVA, dans la pratique, l'Office des étrangers régularise d'office tout demandeur d'asile qui a une longue procédure d'asile. Donc c'est 3, 4, voire 5 ans. 3 ans s'il y a famille scolarisée, 4 ans si, ou 5 ans s'il y a conseil d'État, en fonction des procédures. Et donc on ne verrait plus des demandeurs d'asile qui vont attendre autant de temps pour obtenir une décision. On n'en voit plus. Et donc très vite, au bout d'une année, 2 ans maximum, ils ont une décision. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans ce champ des 3 ans minimum, pour être alors à ce moment-là, l'office est dans l'obligation de leur donner leur séjour pour longue procédure d'asile. Après maintenant, les demandeurs d'asile, effectivement, sur conseil de leur avocat, vont introduire une demande d'asile. Et donc, ils vont essayer, les gens vont user et abuser de toutes les procédures. Mais est-ce qu'ils seront régularisés? Voilà. Eh bien, merci, merci de l'invitation. Et si jamais vous avez une quelconque question, je suis présente dans le bâtiment de la FGTP, 4e étage, la SBL Sans Force s'y trouve. Merci.